Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Notre invitée est Marie-Pierre Rey, professeure d'histoire russe et soviétique à la Sorbonne. Elle est aussi l'auteure de L'effroyable tragédie parue chez Flammarion. Nous poursuivons en sa compagnie notre série d'émissions sur la campagne de Russie de 1812. L'épisode auquel nous nous intéressons aujourd'hui figure parmi les plus célèbres de la campagne de Russie. Il s'agit de l'incendie de Moscou. Napoléon avait en effet fait de la prise de cette ville, symbole de la Sainte Russie, l'objectif stratégique qui conduirait à la fin de la guerre. Il se heurta à une toute autre réalité. Loin de le conduire à la paix, l'entrée dans Moscou le perdra finalement. Marie-Pierre Rey, bonjour.
Bonjour.
Avant de nous intéresser à l'entrée de la Grande Armée et de Napoléon dans la ville, pouvez-vous nous décrire rapidement la ville dans laquelle il s'apprête à pénétrer ?
Alors, Moscou, c'est, comme vous l'avez dit, la ville sacrée, hein, c'est la ville sacrée des tsars, et en particulier le Kremlin abrite un certain nombre de cathédrales et d'églises qui sont extrêmement importantes pour la conscience religieuse russe, mais aussi pour l'identité russe. Donc, Moscou, c'est une ville ancienne, une ville profondément marquée par son histoire religieuse, c'est l'ancienne ville des tsars. Elle est la seconde capitale, puisque depuis le règne de Pierre le Grand, c'est Saint-Pétersbourg qui est la capitale administrative, mais elle reste une ville extrêmement importante sur le plan religieux, culturel et économique. C'est là aussi un aspect important de la question. Et pour les Russes, c'est une ville attachante. Hein. On parle de Moscou, petite mère Moscou. Il y a Moscou la Blanche, puisqu'à l'époque, elle était recouverte de chaux blanche. Bref, c'est une ville qui est extrêmement importante et où bat, pourrait-on dire, le cœur russe.
Alors bien sûr, pour Napoléon et son armée, l'entrée dans Moscou est hautement symbolique. Mais ne marque-t-elle pas aussi beaucoup les Russes ? Quelle est la réaction des Russes à cette entrée de l'empereur français dans leur ville ?
Alors, pour comprendre la situation, il faut bien souligner un aspect. Lorsque Kutuzov décide d'abandonner Moscou sans la défendre, il prévient le 13 septembre le gouverneur général de la ville, qui était Fiodor Rostopchine, en lui disant que voilà, il faut qu'il fasse évacuer la population. Alors Rostopchine est furieux parce qu'il espérait, bien sûr, que la ville serait défendue. Il avait même proposé de constituer des milices, une milice émanant de la société civile, pourrait-on dire, pour renforcer les troupes régulières et irrégulières, susceptibles donc de défendre la ville. Et pour lui, c'est la consternation. Alors, en réalité, donc, il donne l'ordre très vite d'évacuer la ville et c'est une panique indescriptible, en réalité, qui caractérise Moscou à partir du 13 septembre au soir. Une panique puisqu'on aura presque 300 000 personnes qui vont s'efforcer de quitter la ville au plus vite. Alors, une partie quand même des moscovites s'était déjà éloignée. Pourquoi ? Eh bien, parce que les nouvelles de l'avancée de Napoléon étaient connues. La bataille de Borodino, évidemment, a été connue également et on savait que l'ennemi était susceptible d'approcher à grands pas. Donc, une partie de la population, les élites, avaient souvent mis leur famille, leurs femmes, leurs enfants un petit peu à l'écart, les avaient envoyés à la campagne, ce que décrit très bien Tolstoï dans Guerre et Paix d'ailleurs, où on voit des familles séparées en deux. Mais bien entendu, c'est l'annonce que la ville n'est pas défendue qui va déclencher ce mouvement de panique. Et on évalue à 2%, 2,5% le nombre de moscovites qui resteront dans la ville. Cela correspond à des populations trop âgées, trop pauvres pour quitter la ville, malades. Et donc on a évidemment des catégories fragiles qui vont donc accueillir, si je puis dire, la Grande Armée lorsqu'elle arrive en vue de Moscou le 14 septembre au matin.
Alors vous parliez de Rostopchine, il a pris d'autres mesures puisqu'il a décidé de libérer les prisonniers. Et bien sûr la mesure pas officiel, mais c'est lui qui a commandé l'incendie de la ville.
C'est un personnage absolument extraordinaire que Rostopchine. Il a été ministre des Affaires étrangères précédemment, c'est un homme expérimenté, que Alexandre Ier a fait nommer gouverneur général quelques mois avant le début de la campagne de Russie. Pourquoi le choisit-il ? Parce que c'est un homme dont il sait qu'il est extrêmement cultivé, très très bons francophones, mais en même temps d'une gallophobie exacerbée. Et dès lors que Alexandre Ier a voulu justement avoir des hommes de confiance, eh bien il a nommé ce gallophobe enragé, pourrait-on dire, comme gouverneur général. Et Rostopchine, très tôt, va en fait se préparer et préparer sa population d'ailleurs à l'arrivée de la Grande Armée. Avant de savoir que la ville serait abandonnée, il s'est distingué par plusieurs actions assez intéressantes à noter. D'abord, il a commencé par faire placarder dans la ville des affiches dans lesquelles il appelle la population à résister et dans lesquelles il est extrêmement violent à l'égard de la Grande Armée, en étant très très virulent, en dénigrant Napoléon. Bref, ce sont vraiment des, on dirait aujourd'hui, des tracts très violents qui visent précisément à essayer de rassurer la population et à la convaincre qu'elle ne doit pas avoir peur de cet envahisseur. Et puis, autre chose intéressante aussi, il a fait arrêter une quarantaine de Français et francophones et les a contraints de quitter la ville parce qu'il craignait que ces gens puissent servir un petit peu d'agents d'influence pour le cas, ou d'espions, pour le cas où Napoléon arriverait. Donc ce sont des signes qui montrent à quel point il est très très sensibilisé à cette arrivée. Et puis son grand fait militaire, si on peut dire, c'est l'incendie de Moscou, qu'il conçoit très tôt dans ses correspondances. Il évoque le fait qu'il ne faudra rien laisser à l'ennemi si par malheur il s'approchait de Moscou. Et puis, ça c'est une déclaration antérieure au mois de septembre, et puis au fur et à mesure que le danger se profile, eh bien il va passer à l'action. Et le 13 septembre au soir, au moment où il fait évacuer la population, eh bien il fait aussi évacuer les pompes à eau qui permettaient d'éteindre les incendies. Et le 13 au soir, il convoque dans le plus grand secret, chez lui, le chef de la police de Moscou, ses adjoints, et ils vont se répartir en réalité les lieux à incendier. Et pour ce faire, Rostopchine va faire appel à toute une catégorie de la population, des malfrats, des petits voleurs, des hommes qui étaient emprisonnés et qu'il fait libérer en échange de leur participation à ce qui va être un gigantesque auto da fé.
Alexandre est-il au courant ?
Non, Alexandre ne sera pas au courant. Alexandre a rendu visite à la ville de Moscou au mois de juillet. Il a réaffirmé à Rostopchine, au gouverneur, qu'il avait toute sa confiance. Et il ne lui a pas donné un blanc-seing, mais la formule était assez équivoque. En même temps, Rostopchine s'en servira, puisqu'il lui a confié Moscou en lui disant qu'il attendait de lui qu'il réponde, évidemment, le plus courageusement et le plus intelligemment possible à la situation. Donc, il lui a laissé une marge de manœuvre, mais en aucun cas, bien entendu, il ne lui a donné l'autorisation de brûler la ville. Et il faut savoir que Rostopchine aura sur cette affaire des déclarations assez ambivalentes, voire contradictoires, puisque il confessera, entre guillemets, avoir été à l'origine de l'incendie, puis il reviendra sur cette déclaration. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va mesurer assez vite l'impopularité de cette mesure. Car de fait, il a sauvé le pays, mais à un prix très élevé. Et beaucoup de gens qui ont tout perdu dans ce gigantesque incendie ne lui pardonneront jamais. Et Rostopchine sera contraint de quitter l'Empire et de trouver refuge, ce qui est tout de même assez paradoxal, en France. Mais ce n'est plus à ce moment-là la France de Napoléon, c'est une France monarchiste.
Alors venons-en à l'entrée de la Grande Armée dans Moscou. Les premières troupes napoléoniennes pénètrent dans la ville le 14 septembre. Quelle grande armée rentre dans Moscou ? Est-elle déjà fortement affaiblie ou pas ?
Oui, alors c'est une question importante parce que on se rappelle que près de 420 000 hommes ont traversé le Niémen à la suite de Napoléon. Et en réalité, ils pénètrent dans Moscou avec 130 000 hommes seulement. Alors si on évalue à 100 000 le nombre de soldats laissés pour sécuriser les villes dont il s'est emparé, eh bien, on se rend compte qu'il a déjà perdu la moitié de ses effectifs à la mi-septembre, alors que le froid n'a pas encore sévi. Alors, d'où viennent ces pertes ? Eh bien, des privations, de la malnutrition, de désertions liées à la fatigue, à la maraude, et bien sûr aussi des affaires, c'est-à-dire tous ces combats périphériques qui ont été menés. Et puis, bien entendu, il faut également prendre en compte les pertes liées à la bataille de Borodino. Mais le point important, c'est bien de souligner que cette grande armée est déjà extrêmement affaiblie du fait des maladies, des épidémies, de sa sous-nutrition et de sa fatigue générale.
Et donc ceux qui arrivent aux portes de la ville sont donc heureux d'arriver. On a d'ailleurs beaucoup de témoignages qui rapportent un émerveillement devant la ville.
Alors, les troupes sont à la fois émerveillées et déstabilisées. Émerveillées par la beauté de la ville. Moscou est une ville qui les séduit, ils parlent d'une nouvelle Jérusalem. Il y a tout un ensemble de témoignages. Les soldats sont émerveillés par ce qu'ils voient, les bulbes dorés, les couleurs de ces palais magnifiques, les couleurs aussi chatoyantes des églises. Tout cela les séduit, les fascine. Et puis en même temps, il y a une inquiétude, parce que la ville est vide et qu'ils n'ont jamais eu, évidemment, l'expérience de cette ville qui finalement se livre à eux sans être défendue, sans qu'il y ait personne. Et beaucoup de témoignages montrent qu'ils sont déstabilisés, inquiets, en se disant mais où se cachent-ils? Où sont ces Russes? Il n'est pas concevable que la ville nous soit abandonnée de la sorte. Et donc, ils vont osciller entre ces deux sentiments étranges.
Napoléon lui arrive le lendemain, le 15, il s'installe aussitôt au Kremlin, mais à peine est-il arrivé qu'on découvre l'incendie de la ville.
Alors, en réalité, il a hésité à entrer parce que le 14, il était prêt à entrer, mais il va retarder de quelques heures son entrée parce qu'il s'attendait à ce qu'on lui apporte les clés de la ville. Ce qui se faisait à l'époque, quand une ville se rendait, les dignitaires, les notables apportaient les clés de la ville. Et ce n'est pas le cas. Et il est lui-même très déstabilisé par la situation en se demandant un petit peu ce qui se passe. Et du coup, il retarde son entrée et fait son entrée quelques heures après et il se dirige vers le Kremlin. Et c'est là qu'il va apprendre que des foyers d'incendie ont éclaté dans la nuit, en fait. Alors, il croit au départ qu'il s'agit d'accidents parce que, à l'époque, les incendies étaient monnaie courante. En plus, on pouvait imaginer que dans l'euphorie de l'installation, des soldats français, d'ailleurs, un peu éméchés, aient mis le feu par inadvertance. Tout était en bois à l'époque. Les plus beaux palais étaient en pierre, mais globalement, la ville était quand même en bois. Et le risque d'incendie était malheureusement d'une grande banalité. Et puis, bien entendu, dès qu'on lui rapporte que, eh bien, au même moment, quasiment, des foyers ont éclaté à différents points de la ville, là, il commence à réaliser qu'il s'agit d'un plan préalablement établi. Et puis, les soldats napoléoniens vont réussir à s'emparer de quelques incendiaires, les faire parler. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte que ces gens-là, en réalité, ont agi sur commande.
Alors, dans un premier temps, l'empereur refuse de quitter le Kremlin. Il va y être obligé. Du coup, son évasion donne lieu à des scènes assez rocambolesques, presque.
Oui, parce qu'on a des récits absolument presque apocalyptiques. Il veut rester au Kremlin le plus longtemps possible, mais en réalité, la ville se consume. Il faut s'imaginer ce que ça représente. Pendant 5 jours et 5 nuits, la ville va brûler. Donc, on a une chaleur, on n'y voit plus rien, et il devient de plus en plus dangereux parce que le périmètre encore épargné se réduit. Et c'est évidemment à la demande expresse, je dirais même à la supplication de ses proches, que Napoléon quitte la ville pour se réfugier à l'extérieur. Et il contraint la plupart de ses hommes à faire de même. Et ce n'est qu'une fois l'incendie définitivement éteint, la pluie est revenue, c'est ce qui va permettre en fait à l'incendie de s'éteindre. C'est donc une fois l'incendie terminé que Napoléon revient dans Moscou.
Alors l'incendie de la ville frappe bien sûr beaucoup les Français, qui, à ce moment-là, décide de se venger, en quelque sorte, par une conduite tout aussi barbare, à la limite, qu'ont eu les Russes.
Alors, le terme de vengeance ne convient peut-être pas. Ce qui se passe à l'époque, c'est que Napoléon avait promis à ses soldats que Moscou serait finalement, c'est le cas de le dire, une nouvelle terre promise. C'est-à-dire qu'on attendait de Moscou du repos, de la bonne nourriture, des lits bien douillets. Bref, on attendait de cette ville qu'elle offre, après toutes ces semaines de souffrance énorme, une sorte de bien-être, un repos. Et les hommes s'attendaient à cela. Et quelques heures à peine après être rentrés, voilà que la ville part en fumée et que toutes les promesses se volatilisent. Donc, à ce moment-là, Napoléon autorise le pillage de la ville, de ce qui reste encore à piller, en quelque sorte compensation des promesses qu'il avait faites à ses hommes. Et donc, à court terme, bien sûr, le pillage est une compensation. Les hommes s'emparent de fourrures, de tapis, de bijoux, de tableaux, bref, de tout ce qu'ils peuvent trouver, de vins extraordinaires, de liqueurs, et on a des récits très pittoresques, je dirais, de ces pillages. Mais, en même temps, Le problème est que ce pillage et cette armée livrée au pillage va perdre sa légendaire discipline, va perdre sa légendaire cohésion et progressivement les hommes n'auront plus qu'un dessein, rentrer chez eux avec leur butin et rapporter dans leur famille ces butins extraordinaires. Donc ce n'est déjà plus une armée en réalité en campagne qui se trouve à Moscou, c'est déjà une armée qui a envie de rentrer et de préférence chargée donc de toutes ces merveilles qu'elle a arrachées à Moscou. En flamme.
Et dans tout ça, Napoléon n'a bien sûr pas la négociation qu'il attend avec Alexandre, mais nous aborderons ce point après une courte pause. Vous êtes toujours à l'écoute de Canal Academy. Nous sommes avec Marie-Pierre Rey pour évoquer l'occupation de Moscou par Napoléon. Nous avons quitté donc ces hommes en train de piller la ville, des hommes prêts à repartir pour sauver leur butin. Et lui, Napoléon, de son côté, espère qu'une seule chose, c'est avoir des signes d'Alexandre et ces signes ne viennent pas et ne viendront jamais.
Alors, en même temps qu'il autorise le pillage, Napoléon essaie quand même d'améliorer la condition des moscovites restés sur place. Donc, et ça, c'est très important, il met en place une administration qu'il organise comme il a organisé Paris. Donc ça, c'est assez amusant. Il crée des arrondissements. Bref, il reproduit le modèle français. Il met en place des commissaires de police pour organiser la ville. Il s'occupe de l'orphelinat de Moscou. Et ça, c'est très savoureux. On ira jusqu'à donner des noms français russifiés aux petits orphelins. On va les doter de noms de famille. Alors, on aura un petit Napoléonski, par exemple, ce qui est assez extraordinaire. Donc, tout cela pour vous dire qu'il s'active énormément et il va même jusqu'à ordonner qu'on joue des pièces du répertoire français pour occuper les soldats. Donc, il y a tout cet aspect-là. Il ne ronge pas son frein en attendant. Il s'occupe énormément. Mais, de fait, il attend la négociation. Pourquoi ? Parce que, précisément, dans les règles, je dirais, les règles militaires de l'époque, quand on tient la capitale de son ennemi, et Moscou à valeur de capitale, eh bien on s'attend à ce que l'ennemi qui a un genou à terre négocie au mieux de ce qui reste à négocier. Et de ce point de vue-là, il s'intègre dans une vision, je dirais, assez traditionnelle de la guerre, alors qu'il est pourtant, lui, l'enfant des Lumières et l'enfant de la Révolution et l'enfant de ces guerres qui étaient des guerres extrêmement modernes. Mais de ce point de vue-là, il raisonne de façon assez traditionnelle. Et en face de lui, eh bien, il y a un homme qui raisonne de manière tout à fait différente. Alexandre, dans sa première proclamation, ce qu'on appelle l'oukaz en russe, sa première proclamation du 25 juin, a dit « Je ne négocierai jamais, je ne négocierai pas tant qu'un seul soldat ennemi sera présent sur le sol russe. » Et cette détermination, il va la conserver, alors même qu'il est en difficulté. Et par trois fois, il va, en réalité, ne même pas répondre, ou de façon anecdotique, aux trois émissaires que va lui envoyer Napoléon. Le premier est un russe, Napoléon envoie un russe, Alexandre le fera mettre en prison momentanément pour trahison, et les deux autres émissaires qui seront français ne seront même pas reçus par le tsar. Donc c'est dire à quel point Alexandre ne s'inscrit pas dans ce schéma traditionnel. Et lui, ce qu'il vise, c'est la guerre patriotique, la guerre nationale, c'est-à-dire cette guerre qui est en train, effectivement, au fur et à mesure que la tragédie se prolonge, que les pertes augmentent, que Moscou a brûlé, que finalement les stigmates s'inscrivent et s'installent dans l'espace et les mentalités russes, eh bien, il table sur précisément cette guerre patriotique, sur ce sursaut national qui vont se produire. Et c'est ça, évidemment, la clé de la victoire russe face à Napoléon.
Alors, le silence russe va obliger Napoléon à repartir de Moscou. Dans quel état est-il ?
Il quitte Moscou le 19 octobre pour tout un ensemble de raisons. D'abord parce qu'il n'a pas obtenu de réponse à ses trois émissaires. Ensuite, parce qu'il est de plus en plus inquiet de ce qui se passe à Paris. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas sous-estimer. Jusque-là, jusqu'à la mi-octobre, il a des nouvelles régulières de Paris par son service d'estafette. Mais de plus en plus souvent, les courriers sont interceptés par les Russes, par les Cosaques, et Napoléon est de plus en plus coupé de la capitale. Et ça l'inquiète. Et il a raison, d'ailleurs, de s'inquiéter, puisqu'il y aura, en son absence, une tentative de coup d'État menée par Mallet le 23 octobre. Alors, Napoléon n'en aura connaissance qu'au mois de novembre, mais il a l'intuition, en tout cas, qu'une trop longue absence et cette absence de communication pose problème. Donc, il est contraint, pour toutes ces raisons, de reprendre la route. Et lorsque les hommes repartent, il espère pouvoir passer par une route au sud qui est susceptible de lui permettre de trouver les approvisionnements dont il a besoin. Mais l'armée russe s'interpose à Maloyaroslavetsk, qui est une bataille importante, ce qui contraint Napoléon à reprendre la route de Smolensk. Or, vous imaginez bien que cette route qui a déjà été dévastée par Barclay sur sa retraite, dévastée par la Grande Armée sur son avancée, ne peut plus rien laisser à la Grande Armée sur son chemin de retour. Et c'est évidemment l'origine des grandes difficultés auxquelles va se heurter cette Grande Armée.
Merci beaucoup, Marie-Pierre Rey. Pouvez-vous nous indiquer, juste pour terminer sur l'incendie de Moscou, en fait, il change la nature de la campagne de Russie, et vous y avez fait allusion tout à l'heure, ça devient presque une guerre morale.
Oui, parce que autant au début de la campagne, Napoléon pouvait apparaître comme un libérateur, et d'ailleurs il en jouera, puisque au moins dans les premières semaines, lorsqu'il est encore dans les provinces polono-lituaniennes, il appelle la population à se soulever et il promet qu'il va abolir le servage. Donc de ce point de vue-là, il peut apparaître à la population russe comme un libérateur, et ce qui expliquera qu'il sera bien accepté aussi dans les provinces polono-lituaniennes. Mais au fur et à mesure que les violences s'accentuent, que les dévastations prennent de l'ampleur, eh bien, l'image du libérateur disparaît derrière l'image d'un monstre, et c'est le terme que Rostopchine emploie dans ses affiches volontairement, l'image d'un monstre, l'image de l'antéchrist, l'image de l'ennemi du genre humain. Toutes ces formules sont déclinées dans la propagande tsariste de l'époque, dans les sermons des prêtres, etc. Et tout cela, évidemment, va se conjuguer pour précisément accréditer l'idée qu'il s'agit d'une guerre totale, je dirais, une guerre totale, psychologique, morale, politique, géopolitique, que chacun doit mener contre Napoléon.
Merci infiniment Marie-Pierre Rey. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'effroyable tragédie, paru aux éditions Flammarion. Au revoir à tous et à toutes.